lire des films, c'est apprendre. On apprend toujours sur soi, sur la technique et sur le temps. C'est sur ces paroles de Francis Ford Coppola que nous démarrons cette heure consacrée au 7e art. Bonjour, Alim avec vous, comme chaque troisième mercredi du mois. J'ai la chance de m'entourer d'illustres experts de l'association Profil Sine Qua Non. Ils nous livrent, comme vous le savez, leur regard, leur analyse sur des films qu'ils ont pris soin de bien visionner, sans gêner son voisin en mangeant des pop-corns, n'est-ce pas Dominique ?
Oh, j'adore le pop-corn.
Ils nous en font part, toujours avec cette même passion que les anime, mais ils nous transmettent cette envie de découvrir un monde vu par un cinéaste. Alors, expert numéro 1, Dominique, quel plaisir de vous revoir parmi nous. Comment allez-vous ?
Merci, j'attends le pop-corn.
Très bien, expert numéro 2, Chantal, fidèle à sa passion et au poste sur le 91 MHz, bien sûr. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, ma foi.
Très bien, vous ne faites pas comme Dominique, vous ne mangez pas de popcorn
non,
pendant les films,
non,
mais
non,
vous avez bien raison, au moins,
tout.
Vous ne dérangez pas le voisin. Expert numéro 3, Roch Kuber. Bonjour Roch.
Bonjour.
Merci de nous apporter votre regard fin et juste. Ça va ? Ça va ? Très bien. Quant à l'expert numéro 4, il navigue librement à travers ses courants pour se construire sa propre culture, sa manière propre d'aimer les films et de les défendre. Il cherche toujours à montrer une culture vivante et pleine de métamorphoses. Il s'agit bien évidemment de Claude.
Oh, oui, oui.
Bravo.
Bonjour, je m'étais reconnu.
Ah, Claude, vous me surprendrez toujours. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Hope, qui signifie espoir en français. Film français, justement, réalisé par Boris Loïkin. Nous vous faisons partager également un regard sur Phoenix, film qui nous vient d'Allemagne, sorti le 28 janvier dernier, réalisé par Christian Petzold. Juste après, on marque une pause. Un aller simple pour Paris, Seychelles, en compagnie de Julien Doré. La seconde partie, nous la consacrons à deux autres films, Snow Therapy, qui nous vient d'Europe du Nord, les gens du Nord, non ça n'a rien à voir, Snow Therapy, est réalisé par Ruben Ostlund. Ensuite nous passons à un autre long métrage réalisé par Romain Goupil, Les Jours Venus. Puis pour terminer ce rendez-vous, on parlera également du Festival Chrétien du Cinéma et une présentation des Journées du Cinéma Suisse, et également Dominique nous fera, si on a le temps, un coup de cœur sur le film Félix et Meira et Imitation Games. Installez-vous confortablement. Manu à la régie, en commandant de bord, lance le décollage pour une heure de traversée dans ce monde mystérieux qu'est le cinéma. Alors nous démarrons avec Hope, qui signifie espoir. Film dramatique réalisé par Boris Loïkin avec Justin Wang, Endurance Newton et Dieudonné Bertrand Ballot. En route vers l'Europe, Hope rencontre Léonard. Elle a besoin d'un protecteur. Il n'a pas le cœur de l'abandonner. Dans un monde hostile où chacun doit rester avec les siens, ils vont tenter d'avancer ensemble et de s'aimer.
Toi, descends.
Je vous ai dit que ça c'est une femme, non? Vous discutez quoi? Viens!
Hé, hey, Yoro!
Hé, hey, maître!
Dis à ta copine, fais l'effort de marcher.
C'est pas ma copine, c'est nigériane.
Pour les Camerounais, c'est là-bas.
Hello! Where are you from?
Nigeria.
Ah! Nigeria! What's your name?
Hope.
Hope!
Voilà, Hope qui signifie espoir. Alors, Claude.
Oui.
Alors, ce film, qu'en pensez-vous ?
Alors, ce film, c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce film-là. D'habitude, ce qu'on nous montre, c'est les émigrants. Quand on parle des émigrants, c'est les émigrants qui arrivent en Europe, qui arrivent en Italie, comme dans un film qu'on a vu il y a quelques années qui s'appelle Terra Ferma, qui arrivent en France dans un film récent aussi qui s'appelle Welcome. Là, c'est des émigrants qu'on trouve dans plein désert. Il y a Hope, donc qui est la jeune femme, c'est son nom, qui vient du Nigeria. Donc, elle est avec un groupe de Nigérians. Il y a également, parmi ces migrants, un groupe de Camerounais avec Léonard. Et ce qu'on suit pendant tout ce film, c'est cette espèce de chemin de croix. C'est un film dramatique, évidemment, qui part donc de Taman Racette et qui arrive aux portes de la Méditerranée, on va dire, à Melilla, au Maroc.
Oui, on voit la traversée du désert.
C'est la traversée du désert. Mmh. C'est toutes les épreuves donc qu'ils ont à surmonter. Ils sont évidemment entourés de mafieux, de nouveaux esclavagistes, on peut les appeler comme ça, qui profitent d'eux, qui les ponctionnent, qui leur, enfin évidemment il y a des viols, il y a de la prostitution, il y a des humiliations, il y a des coups. Et voilà, c'est cette traversée du terrible du désert pour ces gens qui sont évidemment victimes de soit envoyés par leur famille pour leur venir en soutien, soit carrément enlevés, comme c'est apparemment le cas de la, ça n'est jamais dit, mais c'est apparemment le cas de la jeune fille. Bon, c'est un film qui est profondément pessimiste parce qu'on ne sait pas, on en entend parler tous les jours et
mais ça fait part de la réalité aussi.
C'est exactement, ça reflète la réalité.
Parce que Boris Loïkine a déjà fait des documentaires et c'est le point commun qu'il a avec les précédents.
C'est le point commun qu'il a avec ça. Donc là c'est un documentaire romancé, on va dire, on peut appeler ça comme ça. Et il y a eu un film qui racontait la même chose, mais qui se passait par la mer, qui est sorti aussi il y a quelques années, qui s'appelait La Pirogue, et qui finissait de manière également aussi tragique. Il faut dire aussi que ce sont des acteurs non professionnels, qu'il a recrutés un peu partout, essentiellement au Maroc, et que malheureusement pour eux, c'est tous ces acteurs...
Ils jouent leur propre rôle quelque part ?
Qui jouent leur propre rôle, donc certains ont été des migrants, certains ont été de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'il y a eu des souteneurs, il y a eu ces espèces de mafieux aussi, donc ils ont tous, ils savent de quoi ils parlent, ils ont tous vécu là-dedans, et ce qui rajoute, on peut dire, à la tristesse de ce film, c'est que malheureusement, après ce film, ils sont toujours dans une situation meilleure que celle qu'ils ont connue pendant cette traversée, mais qui n'est guère brillante au Maroc.
Et oui, malheureusement.
Mais c'est un très beau film.
Oui, hein. Dominique.
C'est un très très beau film qui retrace l'itinéraire donc de ce Nigérien et de ce Camerounais tout en donnant à voir le destin des autres communautés, mais donc qui sont à la recherche de la terre promise. Mais il a le mérite de nous montrer du doigt, mais en appuyant très fort et là où ça fait mal, une réalité qui est souvent ignorée. Moi, j'ai appris vraiment des tas de choses. C'est un film bouleversant, mais c'est un film à voir. Mais il enseigne beaucoup de choses sur les migrants, notamment sur les relations entre eux, qui sont loin d'être des rapports solidaires. En fait, c'est une jungle où chacun veut sauver sa peau. Mais ce qui sauve le film, enfin, ce qui sauve le film n'a pas besoin d'être sauvé, il est bouleversant, mais il y a cet amour qui naît entre cet homme et cette femme, qui sont de communautés différentes et qui se construisent. Cet amour se construit à travers le film et qui est magnifique. Il y a des moments de grâce et très beaux. C'est un peu un road movie africain. Mais il ne faut pas le cacher, c'est très dur. C'est un film dur. Mais si on est vraiment intéressé par ce type de problème, il apprend des choses sur le sujet.
Et puis bon, voilà, il fait part d'une réalité.
D'une réalité qu'il ne faut pas ignorer, mais on se sent encore tellement impuissant. Mais
d'ailleurs, il a reçu pour ce film le prix de la SACD au festival donc là en 2014. Ce film. Oui, Chantal, un mot sur Haup.
Ce que je veux dire, c'est que ce film est très dur et très très difficile à regarder parce qu'il nous montre et on doit le voir. C'est un devoir de voir ce film. Parce qu'il faut qu'on sache que ça existe, mais il faut pas, c'est vraiment pas une partie de plaisir d'aller voir ce film. Mais bon, on en ressort c'est une information très dure qu'on reçoit. Il a choisi, parce qu'au départ on se dit c'est un documentaire, il a choisi de le faire un petit peu romancé, parce qu'effectivement c'est peut-être le moyen de faire passer un petit peu cette dureté. Maintenant, j'en suis sortie, je l'ai vu et je ne retournerai pas. Je sais que ça existe et on est impuissant. C'est ça qui est horrible, c'est qu'on se dit, bon, d'accord, on sait Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait qu'on fait rien.
Eh bien, on ne sait pas. Et puis, malheureusement, ce genre d'information n'est pas diffusé au journal de 20h, qui serait plus approprié. Bref, Rock, un mot sur Hope.
Je rejoins un petit peu l'unanimité qui vient d'être faite sur ce film. On y apprend surtout, ce que moi j'y ai appris du moins, c'est la création de ces ghettos, de ces véritables mafieux qui existent partout, toutes les étapes qu'ils traversent depuis Taman Rasset jusqu'au Maroc, et ces groupes mafieux qui sont très très organisés, qui exploitent des pauvres types qui sont aussi pauvres qu'eux, tout le monde est très pauvre, et chacun exploite l'autre, c'est vraiment une vie d'enfer de loups, c'est des loups entre eux, alors que les loups entre eux se solidarisent. Là, c'est des loups qui se mangent entre eux avec des ghettos très particuliers. Les ghettos camerounais n'ont rien à voir avec les ghettos nigériens. Et tous ces trucs-là, c'est quelque chose que j'ignorais complètement. Et ça suit tout le parcours. C'est ce qui rend ce film très dur et qui, je crois, est un film, comme disait Chantal, un film que j'estime nécessaire. Mmh. Nécessaire. Qu'il soit dur,
même passionnant, hein, on s'en doute pas une seconde.
Oui, nécessaire. Hein, c'est un film à découvrir, on ignore tout ça. Hein, c'est absolument épouvantable. Alors que dans Pirogue, dont on parlait tout à l'heure, il y a une certaine solidarité. Ils sont tous embarqués dans la même galère, c'est le cas de le dire, dans une pirogue. Ici, ils ont l'air d'être tous individuels, à se battre et à survivre comme ils peuvent. Et être exploités tant qu'ils peuvent, d'ailleurs.
Mais d'ailleurs, je pense que Boris Loïkin, dans ses précédents documentaires, c'était Pirogue. Que c'était tourné au Vietnam, non ?
Non, au Sénégal, Pirogue.
D'accord.
Sénégal, en principe.
Ah, je comprends. Voilà, c'était ça partait du Sénégal pour aller aux Canaries.
Voilà. D'accord. Passer dans l'enclave espagnole, je crois.
C'est la même problématique.
Oui. Sauf que là, c'était sur la mer.
Voilà c'était sur la mer.
Exactement. Malheureusement. On passe au second film. Second film de ce mercredi, il s'agit de Phoenix, une histoire dramatique réalisée par Christian Petzold avec Nina Haus, Ronald Zerfeld et Nina Kunzendorf. J'y suis arrivé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Nelly, une survivante de l'Holocauste, revient chez elle sous une nouvelle identité. Elle découvre son mari qui l'a trahi.
Ohne Johnny hätte ich das Lager nicht überlebt. Jede Nacht, jeden Tag habe ich nur daran gedacht, wie ich zu ihm zurückkomme. Und als ich dann wieder hier war, da muss ich ihn einfach suchen.
Der Wundkanal hier ist eine Schussverletzung. Wir haben sie für tot gehalten. Haben sie Glück gehabt.
Du hast geerbt. Deine ganze Familie ist tot. Wo ist Johnny? Johnny hat dich verraten. Hast du mit ihm gesprochen?
Phoenix, alors Dominique, il me semble que vous l'avez vu.
Oui, je l'ai vu et j'ai été complètement captivée par ce film. J'étais déjà très intéressée par la filmographie de Christian Petzold, notamment par Barbara, hein, son avant-dernier, qui retraçait aussi les états d'âme d'un médecin retournant en Allemagne de l'Est. Donc, c'est toujours entre deux mondes et entre deux états psychologiques différents. Donc, moi, j'ai trouvé le scénario extrêmement intéressant de cette femme qui revient de camp totalement défigurée et qui subit une chirurgie esthétique et on lui dit bon bah écoute passe à autre chose on va te faire un autre visage mais non elle veut être celle qu'elle a été, elle veut retrouver son mari, la vie qu'elle a eue avec lui et enfin il faut pas trop dévoiler parce qu'il y a quand même un certain suspense elle découvre que son passé n'était pas aussi aussi idyllique que ce qu'elle aurait pu penser. Elle découvre justement que peut-être son mari l'a trahi. Mais c'est fascinant parce que ça porte sur donc la trahison, la recherche d'identité, le passé révolu, l'expérience l'exploitation finalement de la misère de l'autre.
D'autant qu'elle revient de loin, elle revient de l'Holocauste.
Oui, oui, c'est ça. Donc c'est une descente aux enfers, c'est une grande cruauté, c'est une tragédie. Puis on voit les ruines, et je pense que Petzold est toujours fasciné par les ruines de cette Allemagne. Donc il y a plein de symboles aussi dans ce film. On peut voir à travers la figure de Nina Hoss qui sont tous, c'est les mêmes personnages que dans Barbara d'ailleurs, hein, les mêmes acteurs qui sont excellents.
D'ailleurs, il renoue avec toute l'équipe, hein, de Barbara, et il collabore une fois de plus avec le scénariste Haroun Farouki.
Voilà. Je fais une parenthèse. Ce scénario est tiré d'un roman de Hubert Montaillet, un français, qu'il a écrit en 1961. Donc peu de temps finalement après la guerre. Voilà. Et enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, et
oui, Claude,
moi aussi j'ai beaucoup aimé ce film. Il faut peut-être dire quelques mots sur Phénix. Pourquoi Phénix? Phénix, il faut rappeler que c'est l'oiseau mythique qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations qui a une très longue vie, et qui quand il sent que la mort approche, il se autodétruit, il part en fumée, mais il renaît de ses cendres, et ainsi de suite. Phénix, donc c'est un oiseau qui a des ailes rouges, dont la couleur rouge est majoritaire, on va dire, et c'est la couleur aussi de ce c'est le titre du film, c'est la couleur de la boîte de nuit dans laquelle le personnage interprété par Ménavos essaye de retrouver son mari, donc qu'elle a perdu de vue, qu'elle aime toujours, que lui apparemment n'aime plus, et c'est à un moment donné du film, donc elle le retrouve dans cette boîte de nuit. Et là, elle le reconnaît évidemment, mais lui ne la reconnaît pas. Et il y a une sorte de polémique à ce sujet. Autrement dit, il y a les gens qui, comme moi, comme Dominique, comme beaucoup d'autres, pour qui que ça ne gêne pas, on va dire.
On a marché à fond.
Par contre, il y en a qui disent, c'est pas possible. Même si on lui a refait la figure, quand même, il y a la voix qui n'a pas changé, il y a les yeux qui n'ont pas changé. Comment est-il possible qu'ils ne la reconnaissent pas? Bon, c'est un...
Ça, on marche ou on marche pas, la majorité marche quand même.
Voilà, la majorité marche, et puis pour moi, c'est pas une des intrigues du
film.
Voilà, ça fait partie des. Mais pour en revenir à ce que disait Dominique, il y a beaucoup de. C'est un film qui est très riche quant aux allusions ou ce qui, au film même auquel il remémore. Donc il y a ce mythe du phénix, mais il y a aussi le mythe d'Orphée. Vous savez, Orphée qui va chercher Eurydice, qui Orphée qui a une très belle voix, qui va chercher Eurydice, qui est morte, donc qui est aux enfers, et qui arrive par son talent à séduire Arès, qui est le dieu des enfers. Il finit par le convaincre, donc, et il y a une condition que met Arès pour qu'il amène Eurydice donc dans le monde des vivants, c'est que il parte, et surtout il ne se retourne jamais avant que Eurydice ait vu le soleil. Et malheureusement, il se retourne parce que il n'a pas tellement confiance, et c'est la fin de l'histoire. Aïe. Voilà. Il y a aussi ce que je voudrais dire, il y a des réminiscences de Vertigo, de Sueur froide, du film d'Hitchcock,
oui, c'est vrai.
Où il y a là aussi une femme qui, on ne sait pas qui elle est au départ, si c'est elle qui meurt, comme le croit le personnage joué par James Stewart, et qui voit réapparaître quelques temps après. Donc, est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est un sosie? Est-ce que c'est une autre? Autrement dit, voilà, tout ce qui fait penser, tout ce à quoi on pense en voyant ce film.
Rock, Phoenix vous a inspiré aussi?
Eh ben, moi personnellement, c'est un film qui m'a fait grincer des dents. Un film où je peux pas dire que j'ai eu un malaise, mais il m'a mis mal à l'aise de bout en bout. Moi, je suis pas arrivé à rentrer dans cette histoire incroyable au sens propre du terme, hein. Et je me dis que cette personne, donc, qui s'appelait Nelly, je crois, c'est ça, Nelly, celle qui a été défigurée, qui recherche son mari, qui le retrouve d'ailleurs presque par miracle, on ne sait pas trop comment, et qui continue à croire en lui, alors qu'elle a la preuve qu'elle a été trahie, qu'elle a été dénoncée par son propre mari, qu'il a lui-même divorcé, etc., etc. Et j'arrive pas à comprendre cette espèce de masochisme qui va très très loin. Voilà, alors ce film m'a un peu déboussolé. Je peux dire que de bout en bout, j'ai été un peu mal à l'aise par ce film.
Il t'a intéressé quand même.
Comment ?
Il t'a intéressé.
Il m'a intéressé, mais je suis pas arrivé à rentrer dans cette histoire incroyable, hein, à laquelle on ne peut pas croire.
Je suis pas d'accord du tout.
Il y en a, ils sont un peu attirés par leur bourreau, on va dire.
Moi, je pense que c'est aussi.
Pardon, oui, vas-y, Chantal, voilà, côté masochiste, alors, c'est voilà.
Oui, c'est quand même pas son bourreau. Je pense que c'est tout simplement une histoire d'amour aussi. Parce qu'elle, on comprend qu'elle a survécu dans les camps d'extermination nazie, parce qu'elle voulait revoir cet homme qu'elle aimait.
Et dans quel état est-on quand on sort de là?
Voilà, et qu'elle aime toujours. Et lui, au contraire, il pense qu'elle est morte. Il a tourné la page, il a refait sa vie. C'est peut-être aussi pour ça qu'il ne l'a. Psychologiquement, il ne la reconnaît pas, parce qu'il ne veut pas la reconnaître.
Ce qui me gêne, c'est qu'elle rentre dans le jeu de cet homme, un jeu complètement malade.
Oui, mais l'amour est aveugle.
Elle est sûre que c'est son mari. Lui, il est sûr que c'est pas elle. En fin de compte, elle a des milliers de preuves pour lui prouver. Elle ne le fait pas. Je pense que c'est sûrement le scénario qu'il a voulu de Christian Petzold. Je sais pas si c'est lui qui a fait le scénario, il l'a tiré du livre, hein, le livre qui s'appelle Le Retour des Cendres. Non,
le scénariste, c'est Haroun Farrokhi.
Haroun
Farrokhi.
Ah, mais d'accord. Et donc, je me dis que c'est ce scénario qui a voulu que jusqu'au bout il y ait le suspense. C'est tout, c'est un peu artificiel parce que il y a pas de raison qu'elle attende la fin pour se dévoiler.
Mais moi je trouve toutes les raisons.
Oui, Chantal. Enfin, moi j'ai compris qu'au départ elle n'est pas du tout sûre qu'il l'a dénoncée. Mais bon, il faut pas trop raconter
l'histoire. Oui, on en a peut-être trop dit, je crois.
Ce qui est formidable là-dedans, c'est que cette femme veut retrouver son identité comme elle était avant. On lui dit non, les camps sont passés par là, tu as perdu ta figure, on t'en refait une autre, et de ce fait, tu te refais une vie. Tu te refais une figure et tu te refais une vie. Ta figure te refait ta vie. Et elle veut pas refaire sa vie, elle veut retrouver sa vie. Mmh. Et malheureusement, retrouver sa vie, c'est retrouver cet homme qu'elle a adorée, elle veut retrouver cet amour et elle s'aperçoit que cet homme refuse cet amour. S'il la reconnaît pas, c'est parce qu'il ne l'a jamais aimée.
Il veut pas la reconnaître aussi. Bon. Il veut pas se confronter au passé.
Donc après, il va y avoir toute.
L'a-t-il toujours regardé ?
Voilà.
Elle est tournée vers le passé et lui est tourné vers l'avenir. Mmh. Il veut partir sur de nouvelles bases alors qu'elle, elle veut retrouver le passé. Je trouve que c'est une métaphore de l'avenir quand même.
Sans dévoiler la fin du film, la dernière scène, quand même, est assez ambigu à ce sujet. L'a-t-il reconnu? N'a-t-il pas voulu la reconnaître? C'est pour ça qu'il fallait voir ce film.
Mais c'est passionnant. Chacun se fait son opinion.
Il faut y voir quand même la renaissance de l'Allemagne. C'est ça aussi qui est intéressant.
C'est la symbolique
de la renaissance de l'Allemagne. Et qui est quand même.
Oui, d'où le titre.
Phénix. Très bien montré.
Ce que je voulais souligner aussi, c'est que dans ce film, il y a une bande musicale donc qui est excellente. Et il y a notamment la reprise d'un standard américain qu'elle chante, parce qu'on ne l'a pas dit, mais elle était chanteuse avant la guerre et lui était pianiste. Mm-hmm. Et c'est une chanson qui s'appelle Speak Low, parle doucement, qui nous suit jusqu'à la fin du film. On l'entend au début du film à la contrebasse et elle la chante à la fin. J'en dis pas plus.
Voilà. Très bien.
Oui.
Mais franchement, c'est un des meilleurs films pour moi.
Pour moi, de ces derniers mois.
Hein.
Absolument.
Alors, juste une précision, le réalisateur, donc Christian Petzold, c'est la cinquième fois qu'il dirige donc la comédienne Nina House.
Remarquable.
Oui.
C'est l'heure de la récré. On marque une pause. Je suis en compagnie de l'association Profil Sine Qua Non. Ils viennent chaque mois partager leur passion, qui est le 7e art. On se retrouve juste après cet aller simple Paris-Séchelles. Vous êtes sur FM+, et vous faites bien.
De sourire dehors, à Angoulême, un chasse-plin Melchior, Paris-Séchelles, des coups. ton corps. Depuis la scène du sombre décor, Lucrèce et Rennes, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose sur nos ronds, ce lilas, le soleil s'endort sur ses chelles, le sable et l'aurore, fleur de sel. Attends-moi, je sors de l'île aux cerfs, l'orage est de l'or pour se perdre. I need you so, oh, I won't let you go, oh, oh. I need you so, oh, I won't let you go, oh, oh. I need you so, oh, I won't let you go, oh, oh. I need you so. Le désir encore pour l'hiver, un chaos d'effort sur Saint-Hilaire. On s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'on se pose sur nos lauriers mayas. On s'était dit des choses.
MHz à Montpellier, son agglomération, 103.1 du côté de Nîmes et son agglomération via le réseau Alliance Plus. Je suis toujours en compagnie de Dominique, Chantal, Roch et Claude. Si vous êtes fan amateur de cinéma et que vous souhaitez rejoindre une association fort sympathique, contactez-nous à la radio, on se fera une joie de vous mettre en relation. Pour cette seconde partie, nous allons parler de Snow Therapy, un film sorti le 28 janvier dernier, cette comédie dramatique réalisée par Ruben Östlund, avec dans les rôles principaux Johannes Bakunc, Lisa Loven, Kongsley et Clara Wettergren. C'est l'histoire d'une famille suédoise qui passe ensemble quelques précieux jours de vacances dans une station de sport d'hiver dans les Alpes françaises. Le soleil brille et les pistes sont magnifiques, mais lors d'un déjeuner dans un restaurant de montagne, une avalanche vient tout bouleversé. Les clients du restaurant sont pris de panique. Et bah, la mère appelle son mari Thomas à l'aide tout en essayant de protéger leurs enfants. Mais tandis que Thomas, lui, a pris la fuite, ne pensant qu'à sauver sa peau.
Where do you come from?
From Sweden.
Sweden,
yes.
Very good. I'll make you the beauty picture together. Come on. One, two, smile. Good one.
Vi er her fordi Thomas jobber så jævlig mye. Så nå får han 5 dager til å bare fokusere på sin familie.
Sånne
jækla
krefter.
Er det safe?
Ja, ja, ja. De vet
hva
de
gjør. Pappa! Det
pappa! Nei, herri, det er lugnt, det er lugnt.
Snow Therapy. Alors Chantal, oui. Qu'avez-vous à nous dire sur ce film?
Moi, j'ai bien aimé ce film. Pourquoi? Parce que ce Ruben Östlund, je trouvais qu'il il savait très très bien créer le malaise. On est au départ, il nous prend un peu à contre-pied, c'est-à-dire qu'au départ, on est dans une superbe ambiance, très agréable, des beaux paysages, comme tu l'as dit, des lieux magnifiques, une station de ski très luxueuse, un très joli couple avec deux jolis enfants, un garçon, une fille, bien aisés dans une société de gens tout est beau, il y a du pognon, tout va bien. Mais non, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça, cette avalanche va être le grain de sable, plutôt de neige, qui va foutre tout en l'air. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va y avoir véritablement un malaise. Un malaise déjà qu'on va comprendre. Les paysages, ils sont plus du tout aussi beaux. La montagne, elle est assez menaçante. Il y a ces coups de canon qui déclenchent les avalanches. Il y a cette musique de Vivaldi qui annonce quand même quelque chose de dramatique. Il y a cet hôtel qui est certes beau, mais très, très... qui est très froid, qui a des lignes épurées, qui est vide, qui nous donne la solitude. Et puis, il y a le malaise de cette femme qui est devant cet homme qui s'est barré comme ça, ce père qui les a laissés tomber. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment est-ce que je peux accepter ça? Est-ce que je peux pardonner ça? Il y a cet homme qui refuse de reconnaître. Mais elle veut qu'il reconnaisse, elle veut, et lui, il s'échappe. Et puis il y a nous, parce que la scène de l'avalanche est filmée, la caméra, nous on est l'œil de la caméra et on le voit qui se tire, ce type. Et donc, on est finalement pris à témoin et on en arrive à nous se poser la question. Et nous, qu'est-ce qu'on aurait fait dans cette situation? Et qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on pardonnerait? Donc tout ça, il y a deux niveaux. Il y a le niveau des fondamentaux de cette famille qui sont remis en question, mais il y a notre niveau à nous, où nous aussi, on se met en question. Et ça, c'était très, très bien fait. Et ensuite, ce que j'ai aimé aussi, c'est que quand même, pour, on va dire... allégé, enfin, il y a quand même un petit côté tragicomique, parce qu'il y a quand même des scènes un petit peu comiques et acides qui sont assez savoureuses. Voilà ce que j'ai à dire de ce film, et je pense qu'il est intéressant à voir.
Dominique, un mot ?
Je suis complètement Chantal sur ce qu'elle vient de dire, tout à fait d'accord. Moi, j'étais très intéressée parce que finalement, quel est le sujet du film ? Quelles sont les conséquences d'un événement déclencheur sur le couple ? Est-ce qu'on est lâche parce qu'on est dans une situation où est-ce qu'on est lâche
de nature.
Voilà. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est bien beau de juger l'autre, mais qu'est-ce qu'on ferait dans la même situation? Et les interrogations de cette jeune femme peuvent absolument être celles les nôtres. Hein, peuvent. Moi, j'ai vraiment été très très intéressée par ce film.
On reste tenu en haleine quand même.
Absolument. Et il y a une fin qui est justement, on ne va pas raconter, donc il faut le regarder bien jusqu'au bout et bien
justement. On a compris, à la fin, la neige fond.
Voilà.
Claude, je pense que ce sera pour la suite.
La fonte.
Moi, je suis beaucoup moins enthousiaste que Chantal et Dominique.
Mais oui, tu es un homme.
Oui. Je ne conteste pas. Je suis un homme qu'on n'est plus naturellement. Moi, je suis jusqu'à l'avalanche. Je trouve que effectivement, tout est bien présenté. On est dans un cadre idyllique, comme vient de dire Chantal, etc.
Ah oui, c'est mais, le Club Med.
Voilà, tout est bien traité. Mais après, je trouve que il y a beaucoup trop de d'invraisemblances qui me gênent dans ce film. On ne rit pas dans la salle. Je me pose des questions.
Cassez pas les popcorn, mais rire.
Voilà, oui, exactement. pourquoi cet homme Thomas nie l'évidence, pourquoi cette femme attend si longtemps pour lui faire des reproches, lui reprocher de s'être s'enfui, et pourquoi elle le fait en présence de gens qu'elle ne connaît pas, de parfaits inconnus. Et non seulement, j'aimerais terminer mon exposé.
Non, mais moi j'aimerais interrompre.
Pourquoi en plus elle le fait encore une deuxième fois avec un autre couple qu'elle ne connaît pas plus d'ailleurs, hein, ce type de. Alors chaque fois ces couples ils sont à l'opposé de ce couple modèle qu'on nous a montré au départ. C'est-à-dire que le premier couple qu'on voit, c'est une femme cougar, comme on dit aujourd'hui, donc qui a une cinquantaine d'années, qui a une vie libre, et qui l'a avec un petit jeune qu'elle a trouvé dans l'hôtel, qui a 10 ans de moins qu'elle. L'autre couple, c'est le contraire, c'est une espèce de bûcheron suédois qui doit faire 1m95 et peser 120 kilos, qui doit avoir 40 ou 45 ans, et qui est avec sa petite amie qu'il a emmenée de Suède, qui doit faire 20 ans maximum, qui pourrait, autrement dit, il pourrait être sa fille.
C'est le cougar au masculin.
C'est le cougar au masculin. Pourquoi ces gens-là ne disent rien à leurs enfants, qui sont là, qui sont angoissés. Les enfants, on les voit beaucoup, il y a beaucoup de gros plans sur les enfants. Ils se resserrent entre eux, ils vivent entre eux. Eux, pendant ce temps, ils vont régler leur compte dans le couloir de l'hôtel, qui est désespérément vide pour une station grand chic en pleine saison. Tout ça, ça me gêne. Et ce qui me gêne le plus, c'est la dernière scène. Alors, je ne vais pas la raconter.
Alors, ça remet les choses à leur place.
Non, la dernière scène, ça me fait penser au match de foot quand il y a l'arbitre dans une scène, dans un moment litigieux, qui signe un pénalty douteux, hein. Qu'est-ce qu'il fait après, à la fin du match? Il essaie de rétablir l'équilibre en sifflant un pénalty à l'équipe adverse. Voilà, pour équilibrer les choses. Et cette fin, pour moi, il cherche à équilibrer les choses. Autrement dit, finalement, Thomas, ben, il est comme ça, mais sa femme, elle est comme lui. Voilà.
Voilà, il a tout dit.
Bon. D'abord, oui, tu n'as rien compris. Elle prend les gens à témoin, là, les copains au repas, parce que justement, elle n'arrive pas à lui faire dire pendant qu'ils sont tous les deux, il est là, il est muet, elle l'a en travers, elle le pousse, devant ces gens, elle se dit comme ça, il va quand même enfin dire quelque chose. C'est pour le pousser à dire quelque chose.
C'est comme ça qu'on fait avec nos maris.
Exactement,
hein.
Exactement, puisqu'il ne veut pas l'entendre en dehors, il faut que là, il est mis au pied du mur. D'ailleurs, il ouvre la bouche et il dit quelque chose. Alors que jusqu'à présent, il n'avait rien dit.
C'est bien ce que je dis. C'est pas le couple modèle qu'on nous a présenté au départ.
Mais bien sûr que non.
Il y a certains couples qui sont dans les faux semblants aussi.
Mais exactement, c'est pas le couple
c'est
modèle.
Totalement vraisemblable.
Tu penses au départ qu'il est modèle, il ne l'est pas.
En apparence.
Voilà.
Non, il le soit en apparence.
Et on accuse l'homme pendant les trois quarts du film, alors que à la fin.
C'est ça qui te gêne. Mais c'est pas vrai, tu vas
à la fin, on voit qu'elle est exactement comme lui. Elle fait la même chose
comme lui.
Avec encore une invraisemblance, ce chauffeur de bus dans la descente qui, à un moment donné, ne sait plus prendre les virages. J'en ai d'autres, des trucs invraisemblables.
Mais c'est cet homme qui refuse de dire.
Mais la vie est invraisemblable.
C'est ça le problème. Elle veut qu'il l'ouvre et qu'il dise quelque chose et il ne dit rien.
Il ne veut pas assumer.
Voilà, il veut rien dire.
Et la métaphore du pénalty, on la rejette et carton rouge. Voilà.
Oui, oui. Il y a Hubert qui cherche désespérément.
Oui, recours.
Oui, c'est un film. Il y a tellement de choses à dire. Je ne sais pas si je vais y arriver. Il faut revenir à l'origine de ce film. Le réalisateur, bon, qui a fait de ses écoles cinéma, etc., il est toujours intéressé par les réactions des êtres humains dans des situations soudaines et inattendues. Donc, il a fait son scénario en fonction de cette idée.
Absolument.
C'est possible, mais c'est ça son idée. Et c'est parti d'une idée vraie au départ.
Exactement.
D'un couple de Suédois qui était en Amérique latine, qui a non pas été pris en otage, mais il y a eu une attaque à main armée, etc. Une fusillade. Ouais. Et en effet, le couple s'est un peu dissocié.
Le mari s'est sauvé.
Et quand on lui a raconté cette histoire en Suède, puisque c'est un couple suédois, la femme ne faisait qu'en parler à des autres extérieurs, parce qu'il y avait un déni de parole de son mari, et elle arrivait à en parler souvent dans des soirées où ils avaient un petit peu bu, c'est-à-dire qu'à un moment où ce que tu as au fond de l'âme est obligé de sortir. Donc je pense que c'est ce qui rend vraisemblable cette histoire.
Absolument.
Non, parce que là, je suis pas d'accord, là ils n'avaient pas bu.
Non, si, si, à un moment, on
l'a voit très bien. L'alcool n'est pas un prétexte, je regrette.
Ils ont bu, ils ont bu.
Si, à un moment, on voit les verres sur la table, etc.
Alors,
deuxième chose, en effet, la déstabilisation de ce couple, en effet, se traduit dès le début par un dialogue de sourds, hein, dont tu as dit. Et c'est pour ça qu'à la fin, elle n'a qu'une réaction, c'est en fonction, vis-à-vis d'autres personnes, d'essayer de faire ressortir ce fond.
Mais elle est déçue, voilà.
Mais il faut
savoir,
oui, elle est détruite, mais le père aussi, finalement, parce que le père, il a l'image de quoi? Et ben, l'image que l'on a dans tout le cinéma américain, et j'aime bien ce film parce qu'il est finalement anti-américain, dans le cinéma américain, c'est le héros viril, et là, c'est la démolition du héros viril, qui n'existe plus.
Donc,
ce côté-là, il est intéressant. De l'autre côté aussi, le cinéma américain nous montre la femme comme on l'a connue dans les années 60, les Brigitte Bardot, les Marilyn Monroe, etc. La femme un peu comment on appelle ça, potiche, alors que finalement, cette femme, elle a sa vie, elle veut vivre, mais à la fin, alors je pense qu'il faut que les gens, on ne va pas le dire, mais les gens regardent bien les dernières images, qui reste dans le bus, personne qui reste dans le bus, et tous les autres sortent, et là, il explique pourquoi il a voulu faire ça, il a voulu montrer que finalement, tout le monde, dans un cas de danger, sauve sa peau, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. À la fin, il y a un rétablissement des deux cirques.
Et d'où
il y a une personne qui reste dans le bus, alors on vous le dira
Chantal
pas.
Chantal n'est plus d'accord, là.
Vous
ferez attention.
Il y a une règle, c'est de ne pas raconter le film.
Vous ferez attention à la personne qui reste dans le bus. Ça, c'est intéressant à savoir aussi. Voilà. Alors, ce film, quand même, il y a aussi un jeu de miroir très important qu'on voit dans beaucoup de scènes dans leur chambre, etc., qui montre bien que le miroir ne montre que l'extérieur. Et ça aussi, c'est important. Je trouve que ce film est quand même très, très creusé, très, très approfondi. Le jeu de miroir est important parce qu'on ne voit que la périphérie, que la superficie. Or, c'est l'intérieur qui compte pour le réalisateur, c'est ce qu'il veut montrer.
Voilà. Très bien. Bon, donc, on a compris qu'à la fin, la neige, elle fond, et puis voilà.
Un partout, la balle au centre. Hein.
Allez, très bien. On verra ça au match retour. Allez, nous passons à la quatrième sélection de ce mercredi. Les jours venus, une comédie dramatique réalisée par Romain Goupil. Il confie les rôles à Valeria Bruni-Tedeschi, Marina Hans et Noémie Lvovsky. Je vais y arriver, j'y suis arrivé. Le jour venu où vos enfants regardent votre passé comme si vous aviez fait Verdun. Le jour venu où une lettre administrative interroge votre âge et votre statut et vous pousse vers la retraite. Le jour venu où votre dernière idée de scénario ne se transforme pas en film. Là, c'est le moment de suivre un court extrait.
Pôle emploi à votre service.
Vous allez avoir prochainement 60 ans, ou peut-être les avez-vous déjà.
Ils m'emmerdent avec leur basis démocratique. Et je démissionne, alors vas-y, toi. Pour moi, c'est ingérable.
Le nœud de mon histoire, c'est quand ils se demandent comment utiliser ce pouvoir.
Pour mon scénario, j'adorerais visiter la salle des coffres.
Avec moi? Que je vous accompagne dans la pénombre des sous-sols.
Les jours venus, réalisé par Romain Goupil, qui, je pense, prolonge sa réflexion sur ses idéaux de mai 68, n'est-ce pas Claude ?
Oui, exactement. Romain Goupil a 60 ans, il s'en rend compte quand il reçoit un bon matin, donc un courrier des ACEDIC, peu importe, d'une administration qui lui écrit « Vous avez 60 ans, vous pouvez faire valoir vos droits à la retraite ». Alors, quand on est écrivain, on peut faire un livre, quand on peut faire une chanson, lui, il est cinéaste, il fait un film.
Pour assurer sa retraite, non.
C'est un prétexte. Encore un prétexte pour faire un film. Alors, quand même, quelques mots sur Romain Goupil. Donc, Romain Goupil, c'est un cinéaste, évidemment, mais c'est aussi un agitateur professionnel, c'est une grande gueule. C'est un ancien trotskiste, c'est un pré-68ard, puisque c'est lui qui a créé les comités d'action lycéens en 66.
Et puis il a fait partie de la bande à Coluche aussi.
Il a fait partie de la bande à Coluche, enfin c'est quelqu'un d'incontournable. Il a fait surtout des documentaires et dans ce film d'ailleurs, il se met un peu à nu. Il nous raconte donc sous ce prétexte de son âge, de ses 60 ans, il s'en sert donc pour faire un peu un retour sur sur sa vie. Et donc dans ce film, c'est entrecoupé, donc c'est un récit linéaire. Le prétexte, c'est de faire un film, de faire un nouveau film. Alors à cette occasion, il a fait appel évidemment à ses copains. On voit donc Noémie Lvovsky, donc qui est dans le rôle d'une productrice. On voit Valérie Bruni-Tedeschi dans le rôle d'une banquière. Marina Hunt, c'est une jeune femme qui n'aime que les vieux hommes mariés. Et tout ça, ça se passe dans la cité des artistes où il vit, avec des gens, des artistes évidemment absolument ingérables, et qui se rencontrent, qui s'engueulent, qui se, à un moment donné, un matelas qui tombe par d'une fenêtre,
c'est un
qui
matelas, qui
ou un piano, 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 piano,
voilà. Tu dors sur les pianos, Claude.
Il faudrait que je me réveille quand même un peu. Voilà, tout ça, c'est fait dans un temps jubilatoire. Alors, on rit beaucoup, mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'est très émouvant. Il faut dire d'abord que tout le monde joue son rôle. Il a fait appel à sa famille, il a fait appel à ses enfants, sa femme, ses parents. C'est voilà, tout ça est mélangé. Alors on passe entre les moments d'engueulade, on pense à des films qu'il a fait sur la guerre en Yougoslavie, où il a connu sa femme à Sarajevo. Il y a aussi des moments avec ces moments d'émotion. Il y a des moments de rire. Et il y a aussi il se moque de lui-même. C'est un peu un film d'autofiction. Je pense à une scène aussi. C'est un éternel dragueur, Romain Goupil. Et il y a une scène où on le voit dans le métro, debout dans le métro, et en dessous de lui, assise, il y a une jeune femme avec un décolleté avantageux.
Généreux,
on va dire.
Ouais.
Voilà. Donc il lorgne là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? La jeune femme se lève en disant, asseyez-vous monsieur, à ma place.
Je vous laisse la place.
Voilà.
Tu t'es régalé.
Voilà, moi je me suis régalé de voir ce film. Alors évidemment, c'est un petit côté film dans le film, surtout à la fin, parce que sans aller plus loin, sans dévoiler ce qui se passe, il tourne son enterrement. Et alors,
on va se dévoiler.
On a compris qu'à la fin, la neige est fond.
Et à la fin, on meurt.
Avec ses copains, Glucksmann, Cohn-Bendit, etc. Et c'est la scène la plus hilarante du film.
D'accord. Et puis voilà, la neige, donc elle reste pas.
Moi, je me suis un peu ennuyée. J'ai trouvé que c'était un film intimiste, peut-être, un film bilan, un film prise de conscience. Ça y est, j'ai 60 ans, me mets à la retraite d'office, mes enfants sont devenus adultes, mais j'en ai rien à fiche de voir ces petits films d'enfance.
Parce que tu n'as aucune empathie pour le personnage, c'est tout.
Il faut rappeler que Romain Goupil avait eu des positions avant l'invasion de l'Irak, tout ça, par George Bush. Avait eu des positions assez dures, quoi. On retrouvait plus cet homme de gauche qui prétendait être.
Malgré ce que dit à la fin Cohn-Bendit au sujet des trotskistes, donc je ne révélerai pas.
Tu peux, il n'y a pas de problème.
Mais voilà. Non, mais c'est...
Il fait un film sur lui-même.
C'est un film sur lui-même, c'est un film sur nous. C'est un film sur nous. Si, je regrette, c'est un film sur nous.
C'est pas l'universel, c'est un peu.
C'est notre société, c'est notre vécu.
Notre génération,
voilà.
On peut dire.
Mais comme c'est notre génération, moi je me suis sentie en connivence avec lui. Moi j'ai bien aimé tout ce qu'il me racontait. Il fait un retour en arrière, un peu comme Annie Ernaux dans Les Années. C'est un petit peu ça. Et donc, comme j'ai son âge, je me retrouve dans tout ce qu'il dit, la façon dont il le dit, il me fait marrer, et j'ai trouvé ça émouvant et sympathique. Voilà.
Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant, et c'est le seul truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le fait que le cinéaste est rattrapé par la réalité, il n'arrive plus à concrétiser ses idées et à aller jusqu'au bout d'un scénario. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais le reste, c'est un... C'est un film bilan sur lui-même, sur sa famille. C'est tourné d'ailleurs par sa famille. Alors on y entre ou on n'y entre pas. Moi, je n'y suis pas entrée.
Bon, oui, Rock.
Moi, j'ai aussi un peu plus que l'âge de Romain Goupil, je présume. Mais je suis pas rentré dedans. J'ai surtout trouvé que c'est un film assez désordonné, qui va un peu dans tous les sens, j'ai déjà vu d'autres films de Romain Goupil, je les ai déjà oubliés. Alors je pense que je suis pas très accro à ce Romain Goupil.
Ans, hein, voilà,
c'est un film que j'ai déjà oublié en fait, Gontin. Bon, il m'a pas beaucoup accroché ce film.
Non, mais c'est pas un film à thèse, oui. Évidemment. Oui. Non, c'est un film dans lequel il se livre comme ça et qu'on partage ou qu'on partage pas. Oui. C'est le ressenti de chacun. Mais c'est vrai que c'est désordonné.
Mais il faut avoir un minimum de 60 ans pour aller le voir.
C'est
hein,
un oui, voilà. Non. Ça c'est vrai.
Moi je dirais pas à un trentenaire ou un quarantenaire ni à mon fils de 27 ans d'aller le voir. Vraiment.
Il est quand même très brouillon, me semble-t-il. Moi je suis pas arrivé à trouver une trame.
Mais c'est revendiqué.
Oui, ben oui. Voilà.
Bon, très bien. Les jours venus.
Non. C'est pas un film classique. Si on y va pour voir Autant d'emporte le vent, c'est pas ça du tout.
Ah oui, bon. D'accord.
Il y a une certaine marge.
Allez, on passe au coup de cœur. Félix et Meira. Dominique, vous,
alors,
vous avez
Félix
vu donc.
Et Meira, c'est un film québécois de Maxime Giroux. Et c'est une histoire d'amour entre une jeune femme juive hassidique qui étouffe dans sa communauté ultra-orthodoxe à Montréal et qui rencontre complètement par hasard un Québécois totalement libre, un peu irresponsable, mais très attachant. Et donc, une relation improbable naît de cette rencontre. C'est un très joli film, plein de poésie, de délicatesse. Et. Je le conseille fortement. Et, alors, il est totalement à l'opposé d'un Mommy que j'avais bien aimé, certes, mais ça n'a rien à voir. Mmh. Et ça fait découvrir justement cette communauté orthodoxe qui est quand même très étouffante. Mmh. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film-là et je le conseille fortement.
Et il y a également Imitation Games.
Alors, je prends la parole aussi pour de Mountain Till Doom. C'est un film anglais avec Benedict Cumberbatch qui est notre... Moi, je trouve que c'est le meilleur acteur anglais du moment. On l'a vu dans Sherlock Holmes, le nouveau et jeune Sherlock Holmes. Enfin, il est très talentueux. Et c'est l'histoire d'un mathématicien génial qui, en 1939, a réussi à décrypter le code de la fameuse machine Enigma qui en envoyer des messages sur tous les mouvements des troupes allemandes. Donc, c'est un film plein de suspense, plein d'humour et qui révèle un secret d'État qui a été non révélé pendant 50 ans. Et c'est totalement captivant. C'est le début du premier ordinateur. Enfin, c'est un type qui est à la limite de l'autisme, mais c'est complètement génial et c'est plein de suspense. Et là aussi, j'encourage beaucoup... Ça, c'est tout public. Hein.
Très bien, merci Dominique. Il y a eu également le Festival chrétien du cinéma.
Peut-être une question quand même. Oui, on parlait des coups de cœur. Je suis d'accord avec le Imitation Game, qui est vraiment formidable, mais j'ajouterais aussi un autre qui est un documentaire qui s'appelle Le Prix à payer, et il est prolongé. Le Prix à payer est un film très très fort sur les problèmes des banques, sur le problème actuel de la finance. C'est un film vraiment qui dévoile des quantités, des choses qu'on devrait savoir, et qu'on ignore complètement ce trafic.
C'est pas un journal de 20h qu'on va nous le dire.
Voilà, exactement. Alors je pense que le prix à payer, comme ils l'ont prolongé, je crois qu'il n'était pas prévu d'être prolongé, mais il est prolongé actuellement. Et je crois qu'il ne faut vraiment pas le manquer. Alors oui, on parlait du...
Le Festival chrétien du cinéma,
oui.
Pour cette édition 2015, le thème est « Et demain ?» avec 3 points de suspension et un point d'interrogation.
Oui. Alors le festival... Oui.
Oui, alors est-ce que vous pouvez nous faire un bilan assez
oui,
rapide?
Oui, ben, le Festival chrétien, il est passé, hein.
Oui, c'était en janvier.
Voilà,
oui.
Il est passé. Le bilan est difficile à faire. Bon, je n'ai pas aucun des chiffres, mais je ferai simplement peut-être quelques petites remarques sur le 18e, puisque nous en sommes à la 18e année de ce festival. C'est surtout cette année, les choix de films, il faut savoir, se font de façon non volontariste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne directive. Et il se trouve que cette année, il y a énormément de films anciens. Comme le thème, c'était « Et demain », c'est vrai qu'il y a 10, 15 ou 20 ans, ou même des fois plus, 30 ou 40, on a sorti des films film sur l'avenir, entre autres le fameux Soleil Vert, qui est date de 73 et qui est qui se passe 50 ans plus tard, c'est-à-dire en 2022 à New York. On n'y est encore pas, mais bientôt. D'autres films comme par exemple
L'Odyssée de l'espace,
comme Fahrenheit, comme L'Odyssée de l'espace, etc. Et le thème nous a évidemment fait tomber dans beaucoup de ces anciens films qu'il faut connaître quand même. Maintenant, on ignore 2001, on ignore un peu peut-être Fahrenheit. C'est des films qui ont énormément marqué une époque. Donc, ce sont un peu des films qui se sont trouvés un peu des films modèles d'une certaine époque. Quoi. Des films, comment on dit ça, des films un peu cultes.
Hein,
un peu
des films cultes. Fahrenheit, c'est un film de François Truffaut sorti en 66.
Oui, tout à fait, 66 Fahrenheit. Hein. Le plus ancien qu'on ait passé, c'était donc les temps modernes, hein, 1936. Oui, et puis Soleil Vert 74, Brésil aussi 85. Et curieusement, c'est peut-être une remarque intéressante, curieusement, ces films n'ont pas forcément été très bien reçus. Brésil, par exemple, personne n'a vu le côté délirant de ce film, qui se veut volontairement délirant. Terry Gilliam, il n'a pas fait quelque chose de classique. Et les gens ne sont pas rentrés dedans.
Ça,
j'étais très étonné.
Moi j'avais adoré ce film, j'ai vu trois fois.
Je constate que finalement, aussi bien Soleil Vert, les gens n'y ont pas cru du tout, alors que il y a eu de très bonnes réflexions de fait, entre autres par Maggie Chaillet sur le fait l'exaspération entre les pauvres et les riches, c'est le thème du film de Soleil Vert, la température qui est supportable à New York à 40 degrés, alors que le film date déjà de 73, on parlait déjà de ce réchauffement climatique qui devenait insupportable. Donc le film était, moi j'ai pu le dire en effet dans le débat, le film était prémonitoire et que si Richard Fleischer l'avait fixé à 50 ans, peut-être qu'il s'est trompé un petit peu, mais qu'on y va quand même. À 50 ans près, il s'est peut-être trompé, mais malheureusement c'est comme ça. Et puis dans les films, il y avait quand même toute une gamme de films beaucoup plus récents.
Il y avait La vieille Dame Indigne, de René Alliot.
Voilà. Là, on a passé un délicieux moment.
Alors celui-là, justement, il a été très apprécié.
Ah, oui.
Bon, moi personnellement, c'était pas mon cas, mais enfin, il a été très apprécié. Alors j'étais très étonné de voir que des films très forts comme Soleil Vert et autres, on s'en restait un peu sur le trottoir, sur le côté, et que des films comme un peu anodins, comme La vieille dame indigne, ont été très appréciés. Alors a été applaudi, par exemple, des films récents comme Heure, alors là je sais pas si je pense bien, Heure a été applaudi, un film qui a très bien marché, qui est très récent, il est de 2014, hein, pas 1914,
avec
bien sûr, 2014.
Johnson.
Des documentaires comme Des abeilles et des hommes, et puis bien sûr l'homme qui plantait des arbres, alors là aussi les gens ont été éblouis, c'est un film d'animation, L'homme qui plantait des arbres avec le fleuve au Ganzo. Il y a eu des choses très accueillies et d'autres peu, La tête en l'air était, je crois, bien accueillie, alors que c'est un film assez dur pas dur en tant que tel, mais sur un thème dur, puisque c'est sur la maladie d'Alzheimer, a quand même été bien reçu, parce que c'est un film d'animation et qui permet de prendre la distance, et non pas avec des acteurs qui sont impliqués. Voilà. Voilà.
Très bien. Un mot également sur les journées du cinéma suisse. Au total, 88 films sont inscrits dans les 11 catégories du prix donc du cinéma suisse. Ils ont été visionnés et jugés par les quelques 300 membres de l'Académie du cinéma suisse. Claude, un mot sur ce...
Alors, le cinéma suisse, donc, c'est la 8e édition. C'est le week-end qui vient, donc samedi et dimanche, le 21 et le 22 février. Ça se passe comme tous les ans au Rabelais.
Très bien.
Et il y a 7 films, donc, qui seront présentés. Donc,
Il y a différentes catégories, meilleur documentaire, meilleur court-métrage.
Oui, c'est des films. Pratiquement tous les films ont été primés. Donc, ce sont des films qui font part de la variété de la population suisse. Puisqu'il y a des Allemands, des Français et des Italiens qui participent. Et il y aura également la présence donc d'un écrivain dont j'ai du mal à dire le nom, qui est l'auteur donc de...
Il y a un hommage qui est rendu, non ?
Oui, qui est rendu. Non. Donc l'écrivain dont a été tiré le film sera là.
Il n'y a pas un site internet, là ?
Si. Alors, pour connaître la programmation,
Il y a un documentaire qui démarre dès le samedi, alors il ne faut pas le louper, très intéressant, sur un père, quelqu'un qui retrouve sa famille, donc déjà assez âgé. Et puis le deuxième film, c'est le contraire, un petit garçon qui retrouve son père, qu'il a plus ou moins ignoré. Donc une première fois, c'est quelqu'un de très adulte, et le deuxième film, c'est un petit garçon, et ça, c'est une fiction, je pense.
Très bien. Voilà. Donc, journée du cinéma suisse qui se déroule à la salle Rabelais, ça démarre à partir de
samedi.
C'est samedi et dimanche.
Voilà. Samedi et dimanche. Parfait. C'était notre rendez-vous mensuel avec l'association Profil. Dominique, Chantal, Roch et Claude, merci à vous quatre pour votre participation. On les retrouve le mercredi 18 mars, toujours en direct depuis nos studios à Montpellier. Un grand coucou à Arlette et Jean. Et on se quitte sur cette phrase. Le cinéma, c'est un rêve que l'on rend possible, d'après Juliette Binoche. Ce rêve, nous tentons de vous en rapprocher. À très vite pour de nouveaux programmes. Bye bye.